L'envers de l'histoire contemporaine, chapitre 5. Cette pièce judiciaire, beaucoup plus brève et impérieuse que ne le sont les actes d'accusation d'aujourd'hui, si minutieux, si complet sur les plus légères circonstances, et surtout sur la vie antérieure au crime des accusés, agita profondément Godefroy. La sécheresse de cet acte, où la plume officielle narrait à l'encre rouge les détails principaux de l'affaire, fut pour son imagination une cause de travail. Les récits contenus, concis, sont pour certains esprits des textes où ils s'enfoncent en parcourant les mystérieuses profondeurs. Au milieu de la nuit, aidés par le silence, par les ténèbres, par la corrélation terrible que le bonhomme Alain venait de lui faire pressentir entre cet écrit et Madame de la Chanterie, Godefroy appliqua toutes les forces de son intelligence à développer ce thème terrible. Évidemment, ce nom de Le Chantre devait être le nom patronymique des La Chanterie, à qui, sous la République et sous l'Empire, on avait sans doute retranché leur nom aristocratique. Il entrevit les paysages où ce drame s'était accompli. Les figures des complices secondaires passèrent sous ses yeux. Il se dessina fantastiquement, non pas le nommé Rifoël, mais un chevalier du Vissard, un jeune homme quasi semblable au Fergus de Walter Scott, enfin le jacobite français. Il développa le roman de la passion d'une jeune fille, grossièrement trompée par l'infamie d'un mari, roman alors à la mode, et aimant un jeune chef en révolte contre l'empereur, donnant, comme Diana Vernon, à plein collier dans une conspiration, s'exaltant, et une fois lancée sur cette pente dangereuse, ne s'arrêtant plus. Avait-elle donc roulé jusqu'à l'échafaud? Godefroy apercevait tout un monde. Il errait sous les bocages normands, il y voyait le chevalier breton et Madame Brion dans les haies. Il habitait le vieux château de Saint-Savin. Il assistait aux scènes diverses de séduction de tant de personnages, en se figurant ce notaire, ce négociant, et tous ces hardis chefs de choix. Il devinait le concours presque général d'une contrée où vivait le souvenir des expéditions du fameux Marche à terre, des comtes de Beauvan, de Longuy, du massacre de la Vivetière, de la mort du marquis de Montauran, dont les exploits lui avaient été déjà racontés par Madame de la Chanterie. Cette espèce de vision des choses, des hommes, des lieux, fut rapide. En songeant qu'il s'agissait de l'imposante, de la noble et pieuse vieille femme dont les vertus agissaient sur lui au point de le métamorphoser, Godefroy saisit avec un mouvement de terreur la seconde pièce que le bonhomme Alain lui avait donnée et qui était intitulée « Précis pour Madame Henriette Brion des Tours Minières, née le chantre de la Chanterie ». Plus de doute, se dit Godefroy. Voici la teneur de cette pièce. Nous sommes condamnés et coupables, mais si jamais le souverain a eu raison d'user de son doigt de grâce, n'est-ce pas dans les circonstances de cette cause? Il s'agit d'une jeune femme qui a déclaré être mère et condamnée à mort. Sur le seuil d'une prison, en présence de l'échafaud qui l'attend, cette femme dira la vérité. La vérité plaidera pour elle, elle lui devra sa grâce. Le procès jugé par la cour criminelle d'Alençon a eu, comme tous les procès où il se trouve un grand nombre d'accusés réunis par un complot qu'a inspiré l'esprit de parti, des portions sérieusement obscures. La chancellerie de Sa Majesté impériale et royale sait à quoi s'en tenir aujourd'hui sur le personnage mystérieux nommé Le Marchand, dont la présence dans le département de l'Orne n'a pas été niée par le ministère public pendant le cours des débats, mais que l'accusation n'a pas jugé convenable de faire comparaître, et que la défense n'avait ni la faculté d'amener, ni le pouvoir de trouver. Ce personnage est, comme le parquet, la préfecture, la police de Paris et la chancellerie de Sa Majesté impériale et royale le savent, le sieur Bernard Polydore Brion des Tourminières, correspondant depuis 1794 du comte de Lille, connu à l'étranger comme baron des Tourminières et dans les fastes de la police parisienne sous le nom de Contenson. C'est un homme qui fait exception, un homme dont la noblesse et la jeunesse ont été déshonorées par des vices si exigeants, par une immoralité si profonde, par des écarts si criminels, que cette infâme vie eût certainement abouti à l'échafaud, sans l'art avec lequel il a su se rendre utile par son double rôle, indiqué par son double nom. Mais de plus en plus dominé par ses passions, par ses besoins renaissants, il finira par tomber au-dessous de l'infamie et servira bientôt dans les derniers rangs, malgré d'incontestables talents et un esprit remarquable. Lorsque la perspicacité du comte de Lille n'a plus permis à Brion de toucher l'or de l'étranger, il a voulu sortir de l'arène ensanglantée où ses besoins l'avaient jeté. N'était-elle plus assez féconde, cette carrière? Fût-ce donc le remords ou la honte qui ramena cet homme dans le pays où ses propriétés, grevées de dettes à son départ, devaient offrir peu de ressources à son génie? Il est impossible de le croire. Il est plus vraisemblable de lui supposer une mission à remplir dans ses départements, où couvaient encore quelques étincelles de nos discordes civiles. En observant le pays où sa perfide coopération aux intrigues de l'Angleterre et du comte de Lille lui livra la confiance des familles attachées au parti vaincu par le génie de notre immortel empereur, il rencontra l'un des anciens chefs de révolte, avec qui, lors de l'expédition de Quiberon et lors du dernier soulèvement des rebelles en l'an 7, il avait eu des rapports comme envoyé de l'étranger. Il favorisa les espérances de ce grand agitateur qui a payé du dernier supplice ses trames contre l'État. Brion put alors pénétrer les secrets de cet incorrigible parti qui méconnaît à la fois et la gloire de Sa Majesté l'Empereur Napoléon Ier et les vrais intérêts du pays, unis dans cette personne sacrée. À l'âge de 35 ans, affectant la piété la plus sincère, professant un dévouement sans bornes aux intérêts du comte de Lille et un culte pour les insurgés qui dans l'Ouest ont trouvé la mort dans la lutte, déguisant avec habileté les restes d'une jeunesse épuisée, mais qui se recommandait par quelque dehors, et vivement protégée par le silence de ses créanciers, par une complaisance inouïe chez tous les ci-devant du pays, cet homme, vrai sépulcre blanchi, fut introduit avec tant de titres à la considération auprès de la dame le chantre, à qui l'on croyait une grande fortune. On complota de faire épouser la fille unique de madame le chantre, la jeune Henriette, à se protéger des ci-devant. Prêtre, ex-noble, créancier, chacun dans un intérêt différent, loyal chez les uns, cupide chez les autres, aveugle chez la plupart, tous enfin conspirèrent l'union de Bernard Brion avec Henriette le chantre. Le bon sens du notaire chargé des affaires de madame le chantre, et quelques défiances peut-être, furent cause de la perte de la jeune fille. Le sieur Chesnel, notaire d'Alençon, mit la terre de Saint-Savin, unique bien de la future épouse, sous le régime dotal, en en réservant l'habitation et une modique rente à la mère. Les créanciers, qui supposaient à la dame le chantre, à raison de son esprit d'ordre et d'économie, des capitaux considérables, furent déçus dans leurs espérances. Et tous, croyant à l'avarice de cette dame, firent des poursuites qui mirent à nu la situation précaire de Brion. Des dissidences graves éclatèrent alors entre les nouveaux époux, et elles donnèrent lieu à la jeune femme de connaître les mœurs dépravées, l'athéisme religieux et politique, dirais-je le mot, l'infamie de l'homme auquel sa destinée avait été si fatalement unie. Brion, forcé de mettre sa femme dans le secret des trames odieuses formées contre le gouvernement impérial, donne sa maison pour asile à Rifoël du Vissard. Le caractère de Riffoel, aventureux, brave, généreux, exerçait sur tous ceux qui l'approchaient des séductions, dont les preuves abondent dans les procès criminels jugés devant trois cours spéciales criminelles. L'influence irrésistible, l'empire absolu qu'il obtint sur une jeune femme qui se voyait au fond d'un abîme, n'est que trop visible par la catastrophe dont l'horreur la jette en suppliant au pied du trône. Mais ce que la chancellerie de Sa Majesté impériale et royale peut aisément faire vérifier, c'est la complaisance infâme de Brion, qui, loin de remplir ses devoirs de guide et de conseil auprès de l'enfant qu'une pauvre mère abusée lui avait confié, se plut à serrer les nœuds de l'intimité de la jeune Henriette et du chef des rebelles. Le plan de cet odieux personnage, qui se fait gloire de tout mépriser, de ne considérer en toute chose que la satisfaction de ses passions, et qui ne voit que des obstacles vulgaires dans les sentiments dictés par la morale civile ou religieuse, ce plan, le voici. C'est ici le lieu de remarquer combien cette combinaison est familière à un homme qui, depuis 1794, joue un double rôle, et qui, pendant 8 ans, a pu tromper le comte de Lille et ses adhérents, tromper peut-être aussi la police générale de l'Empire. De tels hommes n'appartiennent-ils pas à qui les paie le plus? Brion poussait Riffoel au crime. Il insistait pour des attaques à main armée sur les recettes de l'État et pour une large contribution levée sur les acquéreurs de biens nationaux, au moyen de tortures affreuses qui portèrent l'effroi dans 5 appartements, et qu'il a inventé. Il exigeait que 300 000 francs lui fussent remis pour liquider ses biens. En cas de résistance de la part de sa femme ou de Riffoel, il se proposait de se venger du profond mépris qu'il inspirait à cette âme droite, en les livrant l'un et l'autre à la rigueur des lois dès qu'ils auraient accompli quelque crime capital. Quand il vit l'esprit de parti plus fort que ses intérêts chez les deux êtres qu'il avait liés l'un à l'autre, il disparut et revint à Paris muni de renseignements complets sur la situation des départements de l'Ouest. Les frères Chaussard et Vautier furent les correspondants de Brion. La chancellerie le sait. Revenu secrètement et déguisé dans le pays, aussitôt que l'attentat fut commis sur la recette de Caen, Brion, sous le nom de Le Marchand, se mit en relation secrète avec monsieur le préfet et les magistrats. Aussi, qu'arriva-t-il? Jamais conspiration plus étendue, et à laquelle participaient tant de personnes et placées à des degrés si différents de l'échelle sociale, ne fut plus promptement connue par la justice que ne l'a été celle dont l'agression éclata par l'attaque de la recette de Caen. Tous les coupables ont été suivis, épiés, 6 jours après l'attentat, avec une perspicacité qui dénotait la plus entière connaissance des plans et des individus. L'arrestation, le procès, la mort de Riffoel et de ses complices en sont une preuve que nous donnons uniquement pour démontrer notre certitude. La chancellerie, nous le répétons, en sait plus que nous à ce sujet. Si jamais condamné dut recourir à la clémence du souverain, n'est-ce pas Henriette le Chantre? Entraînée par la passion, par des idées de rébellion qu'elle a sucées avec le lait, elle est certainement inexcusable aux yeux de la justice. Mais, aux yeux du plus magnanime des empereurs, la plus infâme des trahisons, le plus violent de tous les enthousiasmes, ne plaideront-ils pas cette cause? Le plus grand capitaine, l'immortel génie qui fit grâce au prince de Hatzfeld et qui sait deviner comme Dieu même les raisons nées de la fatalité du cœur, ne voudra-t-il pas admettre la puissance, invincible au jeune âge, qui milite pour excuser ce crime, quelque grand qu'il soit? 22 têtes sont déjà tombées sous le glaive de la justice par les arrêts de 3 cours criminelles. Il ne reste plus que celle d'une jeune femme de 20 ans, d'une mineure. L'empereur Napoléon le Grand ne la laissera-t-il pas au repentir? N'est-ce pas une part à faire à Dieu? Pour Henriette le Chantre, épouse de Brion des Tourminières, son défenseur, Bordin, avoué près le tribunal de première instance du département de la Seine. Ce drame effroyable troubla le peu de sommeil que prit Godefroy. Il rêva du dernier supplice, tel que le médecin guillotin l'a fait dans un but de philanthropie. À travers les chaudes vapeurs d'un cauchemar, il entrevit une jeune femme, belle, exaltée, subissant les derniers apprêts et traînée dans une charrette, montant sur l'échafaud et criant « Vive le roi !» La curiosité poignait Godefroy. Au petit jour, il se leva, s'habilla, marcha dans sa chambre et finit par se coller à sa croisée, regardant machinalement le ciel en reconstruisant, comme ferait un auteur moderne, ce drame en plusieurs volumes. Et il voyait toujours sur ce fond ténébreux de chouans, de gens de la campagne, de gentilshommes provinciaux, de chefs, de gens de justice, d'avocats, d'espions, se détacher, radieuses, les figures de la mère et de la fille abusant sa mère, de la fille victime d'un monstre, victime de son entraînement pour un de ces hommes hardis que plus tard on qualifia de héros, et à qui l'imagination de Godefroy prêtait des ressemblances avec les Charettes, les Georges Cadoudal, avec les géants de cette lutte entre la République et la monarchie. Dès que Godefroy entendit le bonhomme Alain se remuant dans sa chambre, il y alla. Mais après avoir entrouvert la porte, il revint chez lui. Le vieillard, agenouillé à son prie-Dieu, faisait ses prières du matin. L'aspect de cette tête blanchie, abîmée dans une pose pleine de piété, ramena Godefroy à ses devoirs oubliés. Il se mit à prier fervemment. « Je vous attendais, » lui dit le bonhomme, en voyant entrer Godefroy au bout d'un quart d'heure. « Je suis allé au-devant de votre impatience en me levant plus tôt qu'à l'ordinaire. »« Madame Henriette !» demanda Godefroy avec une anxiété visible. « Est la fille de madame !» répondit le vieillard en interrompant Godefroy. « Madame s'appelle le chantre de la chanterie. Sous l'Empire, on ne reconnaissait ni les titres nobiliaires, ni les noms ajoutés aux noms patronymiques ou primitifs. » Ainsi, la baronne des Tourminières s'appelait la femme Brion. Le marquis d'Esgrignon reprenait son nom de Carole. Il était le citoyen Carole, et plus tard, le sieur Carole. Les trois villes devenaient les sieurs Guibelin. « Mais qu'est-il arrivé? L'empereur a-t-il fait grâce ?»« Hélas, non, » répondit Alain. « L'infortunée petite femme, à 21 ans, a péri sur l'échafaud. » Après avoir lu la note de Bordin, l'empereur répondit à peu près en ces termes à son grand juge. « Pourquoi s'acharner à l'espion? Un agent n'est plus un homme, il ne doit plus en avoir les sentiments. Il est un rouage dans une machine. Brion a fait son devoir. Si les instruments de ce genre n'étaient pas ce qu'ils sont, des barres d'acier, et intelligents seulement dans le sens de la domination qu'ils servent, il n'y aurait pas de gouvernement possible. Il faut que les arrêts de la justice criminelle spéciale s'exécutent. Autrement, mes magistrats n'auraient plus de confiance, en eux ni en moi. D'ailleurs, les soldats de ces gens-là sont morts, et ils étaient moins coupables que les chefs. Enfin, il faut apprendre aux femmes de l'Ouest à ne pas tremper dans les complots. C'est précisément parce que c'est une femme que l'arrêt frappe que la justice doit avoir son cours. Il n'y a pas d'excuse possible devant les intérêts du pouvoir. Telle est la substance de ce que le grand juge voulut bien répéter à Bordin de son entretien avec l'empereur. En apprenant que la France et la Russie ne tarderaient pas à se mesurer, que l'empereur serait obligé d'aller à 700 lieues de Paris attaquer un pays immense et désert, Bordin comprit les véritables motifs de l'inclémence de l'empereur. Pour obtenir la tranquillité dans l'Ouest, déjà plein de réfractaires, il parut nécessaire à Napoléon d'imprimer une profonde terreur. Aussi le grand juge conseilla-t-il à l'avoué de ne plus s'occuper de ses clients. « De sa cliente ?» dit Godefroy. Madame de la Chanterie était condamnée à 22 ans de réclusion, dit Alain. Déjà transférée à Bicêtre, près de Rouen, pour subir sa peine, on ne devait s'occuper d'elle qu'après avoir sauvé son Henriette, qui, depuis les affreux débats, lui était devenue si chère que sans la promesse de Bordin de lui obtenir grâce de la vie, on ne croit pas que madame aurait survécu au prononcé de l'arrêt. On trompa donc cette pauvre mère. Elle vit sa fille après l'exécution des condamnés à mort par l'arrêt, sans savoir que ce répit était dû à une fausse déclaration de grossesse. « Ah, je comprends tout !» s'écria Godefroy. « Non, mon cher enfant, il est des choses qu'on ne devine pas. Madame a cru sa fille vivante pendant bien longtemps.
Comment ? »
Voici. Quand madame des Tourminières apprit par Bordin le rejet de son recours en grâce, cette sublime petite femme eut le courage d'écrire une vingtaine de lettres datées de 6 mois en 6 mois postérieurement à son exécution, afin de faire croire à son existence et d'y graduer les souffrances d'une maladie imaginaire jusqu'à la mort. Ces lettres embrassaient un laps de temps de 2 années. Madame de la Chanterie fut donc préparée à la mort de sa fille, mais à une mort naturelle. Elle n'en apprit le supplice qu'en 1814. Elle resta 2 années entières détenue, confondue avec les plus infâmes créatures de son sexe, portant l'habillement de la prison. Mais, grâce aux instances des Champignelles et des Beauséants, elle fut, dès la 2e année, mise dans une chambre particulière où elle vivait comme une religieuse cloîtrée.
Et les autres ?
Le notaire Léveillé, Derbaumé, Hillé, Cibot, Grenier, Auraud, Cabot, Minard, Mallet furent condamnés à mort et exécutés le même jour. Panier, condamné à 20 ans de travaux forcés, ainsi que Chaussard et Vautier, furent marqués et envoyés au bagne. Mais l'empereur fit grâce à Chaussard et à Vautier. Melun, La Ravinière et Binet furent condamnés à 5 ans de réclusion. La femme Bourget fut condamnée à 22 ans de réclusion. Chargegrain et Rousseau furent acquittés. Les contumaces furent tous condamnés à mort. Mais la fille Godard, qui n'est autre, vous le devinez, que notre pauvre Manon.
Manon ?
S'écria Godefroy stupéfait. « Oh, vous ne connaissez pas encore Manon !» répliqua le bon Alain. « Cette dévouée créature, condamnée à 22 ans de réclusion, se livra pour servir madame de la Chanterie en prison. Notre cher vicaire est le prêtre de Mortagne qui donna les derniers sacrements à madame la baronne des Tourminières, qui eut le courage de la conduire à l'échafaud, et à qui elle a donné le dernier baiser d'adieu. Ce courageux et sublime prêtre avait assisté le chevalier du Vissard. Notre cher abbé de Vèze a donc connu tous les secrets de ses conspirateurs.
« Je vois où ses cheveux ont blanchi !» dit Godefroy.
« Hélas !» reprit Alain. « Il a reçu d'Amédée du Vissard la miniature de madame des Tourminières, la seule image qui reste d'elle. Aussi l'abbé devint-il sacré pour madame de la Chanterie, au jour où elle rentra glorieusement dans la vie sociale.
« Et comment ? »
dit Godefroy étonné. Mais à la rentrée de Louis XVIII en 1814, Boislaurier, le jeune frère de monsieur de Boisfrelon, avait les ordres du roi pour soulever l'Ouest en 1809 et plus tard encore en 1812. Leur nom est Dubu. Le Dubu de Caen est leur parent, ils étaient 3 frères. Dubu de Boisfranc, président à la cour des aides, Dubu de Boisfrelon, le conseiller au Parlement, et Dubu Boislaurier, capitaine de dragons. Le père avait donné les noms de 3 différentes propriétés à ses fils, en faisant des savonnettes à Vilain, car le grand-père de ces Dubu vendait de la toile. Le Dubu de Caen, qui put se sauver, appartenait au Dubu resté dans le commerce, et il espérait, par son dévouement à la cause royale, obtenir de succéder au titre de monsieur de Boisfranc. Aussi Louis XVIII a-t-il accompli le vœu de ce fidèle serviteur, qui fut grand prévôt en 1815, et plus tard procureur général sous le nom de Boisfranc. Il est mort comme premier président d'une cour royale. Le marquis du Vissard, frère aîné du pauvre chevalier, créé pair de France et comblé d'honneur par le roi, fut nommé lieutenant dans la Maison Rouge et préfet après la dissolution de la Maison Rouge. Le frère de monsieur d'Herbaumet a été fait comte et receveur général. Le pauvre banquier Panier est mort de chagrin au bagne. Boislaurier est mort sans enfant. Lieutenant général et gouverneur d'un château royal. Messieurs de Champignelles, de Beauséant, le duc de Verneuil et le garde des Sceaux ont présenté madame de la Chanterie au roi. Vous avez bien souffert pour moi, madame la baronne. Vous avez droit à toute ma faveur et à toute ma reconnaissance, a-t-il dit. Sire, a-t-elle répondu, votre majesté a tant de douleurs à consoler que je ne veux pas faire peser sur elle le poids d'une douleur inconsolable. Vivre dans l'oubli, pleurer ma fille et faire du bien, voilà ma vie. Si quelque chose peut adoucir mon malheur, c'est la bonté de mon roi. C'est le plaisir de voir que la Providence n'a pas rendu tant de dévouement inutile.
Et qu'a fait Louis XVIII ?
Demanda Godefroy. Le roi fit restituer 200 000 francs à madame de la Chanterie, car la terre de Saint-Savin avait été vendue pour satisfaire le fisc, répondit le bonhomme. Les lettres de grâce expédiées pour madame la baronne et sa servante contiennent le regret du roi des souffrances supportées pour son service, en reconnaissant que le zèle de ses serviteurs était allé trop loin dans les moyens d'exécution. Mais, chose horrible et qui vous semblera le trait le plus curieux du caractère de ce monarque, il employa Brion dans sa contre-police pendant tout son règne. « Oh, les rois, les rois !» s'écria Godefroy. « Et ce misérable, vit-il encore ?» Non, ce misérable, qui du moins cachait son nom sous celui de Contenson, est mort vers la fin de l'année 1829 ou au commencement de 1830. En arrêtant un criminel qui se sauvait sur le toit d'une maison, il tomba dans l'arche. Louis XVIII partageait les idées de Napoléon sur les hommes de police. Madame de la Chanterie est une sainte. Elle prie pour l'âme de ce monstre et fait dire pour lui 2 messes par an. Quoique défendue par le père d'un grand orateur et l'un des célèbres avocats du temps, madame de la Chanterie, qui ne connut les dangers de sa fille qu'au moment du transport des fonds, et encore parce qu'elle fut éclairée par son parent Boislaurier, ne put jamais établir son innocence. Le président du Ronceret et le vice-président du tribunal d'Alençon, Blondet, essayèrent vainement de sauver notre pauvre dame. L'influence du conseiller à la cour impériale qui présidait la cour spéciale criminelle, le fameux Mergy, plus tard procureur général, fanatiquement dévoué à l'autel et au trône, et qui fit tomber plus d'une tête bonapartiste, fut-elle sur ses 2 collègues qu'il obtint la condamnation de la pauvre baronne de la Chanterie. Messieurs Bourlac et Mergy mirent un acharnement inouï dans les débats. Le président appelait la baronne des Tours « femme brillant » et madame « femme le chantre ». Les noms des accusés sont tous ramenés au système républicain et presque tous dénaturés. Ce procès eut des détails extraordinaires et je ne me les rappelle pas tous. Mais il m'est resté dans la mémoire un trait d'audace qui peut servir à vous peindre quels hommes étaient ces chouans. La foule, pour assister au débat, dépassait tout ce que votre imagination s'en figure. Elle remplissait les corridors, et sur la place, elle ressemblait au rassemblement des jours de marché. Un jour, à l'ouverture de l'audience, avant l'arrivée de la cour, Pille Miche, le fameux chouan, saute par-dessus la balustrade au milieu de la foule, joue des coudes, se mêle à ce monde et s'enfuit avec le flot de cette foule, effrayée, brochant comme un sanglier, m'a dit Bordin. Les gendarmes, la garde, courent su, et il fut repris sur l'escalier au moment où il gagnait la place. Ce trait d'audace fit doubler la garde. On commanda sur la place un piquet de gendarmerie, car on craignit que parmi la foule, il ne se trouva des chouans prêts à donner aide et secours aux accusés. Il y eut 3 personnes écrasées dans la foule par suite de cette tentative. Depuis, on a su que Contenson, de même que mon vieil ami Bordin, je ne puis l'appeler ni baron des Tourminières ni Brion, qui est un nom de la vieille race. On a su, dis-je, que ce misérable a soustrait et dissipé 60 000 francs des fonds volés. Il en a donné 10 000 au jeune chaussard, qu'il a embauché dans la police, en lui inoculant ses goûts et ses vices. Mais aucun de ses complices ne fut heureux. Le chaussard contumace fut jeté dans la mer par M. de Boislaurier, dès qu'il apprit, par un mot de panier, la trahison de ce drôle, à qui Contenson avait conseillé de rejoindre les conspirateurs fugitifs pour les surveiller. Vautier fut tué dans Paris, sans doute par un des obscurs et dévoués compagnons du chevalier du Vissard. Enfin, le plus jeune des chaussards fut assassiné dans une de ces affaires nocturnes particulières à la police. Il est à croire que Contenson se débarrassa de ses réclamations ou de ses remords en le recommandant, comme on dit, au prône. Madame de la Chanterie plaça ses fonds sur le grand livre et acheta cette maison, pour obéir à un désir de son oncle, le vieux conseiller de Boisfrelon, qui lui donna l'argent nécessaire à l'acquisition. Ce quartier tranquille était voisin de l'archevêché, où notre cher abbé fut placé près du cardinal. Ce fut la principale de toutes les raisons de madame pour ne pas s'opposer aux vœux du vieillard, dont la fortune, après 25 ans de révolution, était restreinte à 6 000 francs de rente. D'ailleurs, madame souhaitait terminer par une vie presque claustrale les effroyables malheurs qui, depuis 26 ans, l'accablaient. Vous devez maintenant vous expliquer la majesté, la grandeur de cette victime. Auguste, j'ose le dire. Oui, dit Godefroy. L'empreinte de tous les coups qu'elle a reçus lui donne je ne sais quoi de grand, de majestueux. Chaque blessure, chaque nouvelle atteinte a redoublé chez elle la patience, la résignation, reprit Alain. Mais si vous la connaissiez comme nous la connaissons, si vous saviez combien vive est sa sensibilité, combien est active l'inépuisable tendresse qui sort de ce cœur, vous seriez effrayé de compter les larmes versées et les prières ferventes adressées à Dieu. Il a fallu, comme elle, n'avoir connu qu'une rapide saison de bonheur pour résister à tant de secousses. C'est un cœur tendre, une âme douce contenue dans un corps d'acier, endurci par les privations, par les travaux, par les austérités. Elle explique la longue vie des solitaires, dit Godefroy. Par certains jours, je me demande quel est le sens d'une pareille existence. Dieu réserve-t-il ces dernières, ces cruelles épreuves à celles de ces créatures qui doivent s'asseoir près de lui le lendemain de leur mort ? Dit le bonhomme Alain, sans savoir qu'il exprimait naïvement toute la doctrine de Swedenborg sur les anges. « Comment ? » s'écria Godefroy. « Madame de la Chanterie a été confondue avec... » « Madame a été sublime dans sa prison, » reprit Alain. « Elle a réalisé pendant 3 ans la fiction du vicaire de Wakefield, car elle a converti plusieurs de ces femmes de mauvaise vie qui l'entouraient. Pendant sa détention, en observant les mœurs des recluses, elle a été prise de cette grande pitié pour les douleurs du peuple qui l'oppresse et qui fait d'elle la reine de la charité parisienne. Au milieu de l'affreux Bicêtre de Rouen, elle a conçu le plan à la réalisation duquel nous nous sommes voués. Ce fut, comme elle le dit, un rêve délicieux, une inspiration angélique au milieu de l'enfer. Elle n'imaginait jamais pouvoir le réaliser. Ici, quand, en 1819, le calme parut renaître à Paris, elle revint à son rêve. Madame la duchesse d'Angoulême, depuis la dauphine, la duchesse de Berry, l'archevêque, plus tard le chancelier, quelques personnes pieuses, donnèrent libéralement les premières sommes qui furent nécessaires. Ce fonds s'augmenta de la portion disponible de nos revenus, sur lesquels chacun de nous ne prend que le strict nécessaire. Des larmes vinrent aux yeux de Godefroy. Nous sommes les desservants fidèles du nid des chrétiennes, et nous appartenons corps et âme à cette œuvre, dont le génie, dont la fondatrice, est la baronne de la Chanterie, que vous nous entendez appeler si respectueusement madame. « Ah ! Je serai tout à vous !» dit Godefroy en tendant les mains au bonhomme. Comprenez-vous maintenant qu'il est des sujets de conversation interdits absolument ici, même par allusion ? Reprit le vieillard. Comprenez-vous les obligations de délicatesse que chacun des habitants de cette maison contracte envers celle qui nous semble être une sainte? Comprenez-vous les séductions qu'exerce une femme sacrée par tant de malheurs, qui sait tant de choses, à qui toutes les infortunes ont dit leur dernier mot, qui de chaque adversité garde un enseignement, de qui toutes les vertus ont eu la double sanction des épreuves les plus dures et d'une constante pratique, de qui l'âme est sans tache, sans reproche, qui de la maternité n'a connu que les douleurs, de l'amour conjugal que les amertumes, à qui la vie n'a souri que pendant quelques mois, à qui le ciel réserve sans doute quelques palmes pour prix de tant de résignation, de douceur dans les chagrins. N'a-t-elle pas sur Job l'avantage de n'avoir jamais murmuré ? Ne vous étonnez plus de trouver sa parole si puissante, sa vieillesse si jeune, son âme si communicative, ses regards si convaincants. Elle a reçu des pouvoirs extraordinaires pour confesser les souffrances, car elle a tout souffert. Toute douleur se tait auprès d'elle. C'est une vivante image de la charité, s'écria Godefroy enthousiasmé. Serais-je des vôtres ? Il vous faut accepter les épreuves, et avant tout, croyez, s'écria doucement le vieillard. Tant que vous n'aurez pas la foi, tant que vous n'aurez pas absorbé dans votre cœur et dans votre intelligence le sens divin de l'épître de saint Paul sur la charité, vous ne pouvez pas participer à nos œuvres. Godefroy baissa la tête.